Bonjour à tous et bonjour aux enfants. Les enfants, vous êtes bien ici avec nous. Vous êtes à la bonne place. À la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et c'est une bonne chose que vos parents viennent avec vous au culte. Parce que la chose la plus importante que les parents puissent transmettre à leurs enfants, c'est la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante, parce que c'est pas seulement pour cette vie ici, mais c'est aussi pour la vie éternelle. Alors l'éducation est importante, la culture est importante, mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons donc lire un récit que certains connaissent déjà. Et je voudrais commencer par un petit chant que vous connaissez. Lis ta Bible, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Alors prions, et ensuite nous lirons la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous te bénissons parce que tu nous as créés, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as donné ta parole pour nous instruire. Et je te demande de te révéler à nous tous, enfants et adultes, Seigneur, que tu nous parles au travers de ce récit, Seigneur Jésus. Amen. Alors, le récit que je vais lire, certains le connaissent déjà, en ont entendu peut-être une version un petit peu remaniée. Au fur et à mesure de ce récit, je demande aux adultes, j'invite les adultes à penser aussi aux analogies qu'il y a avec l'œuvre de Jésus face au diable. Donc déjà, vous pouvez commencer à réfléchir en vous-même, à méditer sur ce texte. Alors, ce texte se trouve dans le premier livre de Samuel, et au chapitre 17. Alors, je vais lire quelques versets, et puis faire un petit commentaire, et ainsi de suite. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop long. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azeka à Éphès-Damine. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Donc, je ne sais pas si les enfants vous voyez un peu la situation. Il y a deux montagnes, il y a une vallée. D'un côté, il y a les Philistins, et de l'autre côté, il y a le peuple d'Israël, l'armée d'Israël. Alors, les Philistins, c'était un peuple qui n'était pas d'origine de ce pays. Ils venaient d'ailleurs, c'était un peuple qui venait de plus loin, et ils avaient d'abord voulu envahir l'Égypte. Mais ils avaient été repoussés par les pharaons d'Égypte. Et ils s'étaient installés dans le pays de Canaan, après l'arrivée des Hébreux, et s'étaient installés le long de la mer. Et ils voulaient eux aussi conquérir, bien sûr, le pays de Canaan. Mais ils se sont heurtés à la résistance des Israélites. Et on peut lire toute l'histoire au temps des juges comme Samson, vous connaissez sûrement l'histoire de Samson, et aussi pendant le règne du roi Saül, le premier roi d'Israël, puis de David. C'était souvent la guerre à cette époque-là. Mais malheureusement, il y a des choses qui ne changent pas beaucoup. Aujourd'hui encore, il y a des guerres entre les peuples, dans cette région-là et dans tout le monde, bien sûr. Alors poursuivons, chapitre 17, toujours de versets 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 sicles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 sicles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors Goliath n'est pas seulement un homme plus grand que les autres, hein. Par ici, dans l'assemblée, il y a peut-être quelques hommes un peu plus grands. Hein, il y a Audace qui est assez grand, il y en a peut-être d'autres. Je sais que j'ai des fils qui font une tête de plus que moi. Hein, ils sont grands, quand même. Mais Goliath, lui, c'est vraiment un géant. Un géant. Et dans la ville de Gath, il y avait d'autres géants, d'autres hommes aussi comme lui. Il y en avait aussi à Gaza et il y en avait à Asdod, dans plusieurs villes. En fait, c'était des descendants des Anakim. Les Anakim, eh bien, c'était des enfants d'un homme qui s'appelait Anak. Donc, on les a appelés les Anakim. C'était un peuple grand et de haute taille. Et Dieu avait promis qu'il marcherait avec le peuple d'Israël et qu'il les détruirait et les humilierait. Parce que les espions hébreux qui étaient allés visiter le pays de Canaan, avant que les Hébreux n'entrent en Canaan, avaient été effrayés par ces hommes de haute taille. Et ils avaient dit, il y a des géants qui habitent par là, donc ils avaient peur. Hein? Donc, Dieu avait promis qu'il serait avec le peuple d'Israël et qu'il combattrait les géants pour eux. Goliath donc mesurait 6 coudées et demi. Alors ça fait 3,50 m. 3,50 m. Moi je fais 1,70 m. Donc plus un deuxième étienne au-dessus, ça fait déjà 3,40 m. Donc 3,50 m, ça veut dire que sa tête devait dépasser le toit là, hein, et qu'il devait donc, il aurait fallu se lever. Hein, c'est ça, hein, je ne sais pas combien ça fait là, 3 mètres peut-être. Hein, donc 3,50 m, vous imaginez. Mais comme je l'ai dit, il y en avait d'autres à cette époque-là de cette taille. Hein. 3,50 m. La cuirasse donc qu'il avait, hein, c'était un peuple de guerriers les Philistins. Ils avaient des cuirasses quand même bien faites. La cuirasse qu'il portait pesait 82 kilos. Et moi, je fais 70 kilos, alors 82 kilos, j'aurais du mal à le porter. Hein. 82 kilos. Et sa lance, elle pesait 10 kilos. 10 kilos pour une lance. Et alors ils disent que sa lance elle était comme une ensouple de tisserand. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est une ensouple. C'est en fait une longue barre cylindrique dans un métier à tisser. C'est une ensouple de tisserand. Donc dans un métier à tisser, il y a une longue barre où on attache les fils, les différents fils qui forment ce qu'on appelle la chaîne du tissu qui vont servir à faire le tissu. Donc, une ensouple de tisserand, c'est une longue barre cylindrique. Donc sa lance, elle était comme une ensouple de tisserand, donc assez épaisse. Donc, ben, Goliath, il était vraiment impressionnant. Hein? Donc, mais Dieu avait dit de ne pas craindre ces géants, parce que c'est lui-même qui les combattrait. Donc, c'est le bras de Dieu qui agirait. C'est Dieu qui agirait. Alors, les hommes étaient effrayés, bien sûr, mais Dieu avait promis qu'il les aiderait. Alors, continuons la lecture. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore : Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül, donc le roi Saül, et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et cela a duré pendant 40 jours. Donc le Philistin, verset 16, s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours, les Israélites, ils ont eu peur de ce Philistin. Et effectivement, et quand on voit sa taille, il y avait de quoi avoir peur pour un homme de venir combattre contre ce géant, hein, compréhensible. Donc le Philistin Goliath provoque les Israélites. Il leur lance un défi. Qui osera le combattre ? Il est orgueilleux, bien sûr, il est sûr de sa force. Il méprise les Israélites et il dit qu'ils sont esclaves de Saül. Alors c'est une insulte pour les Israélites, hein ? Vous savez peut-être pourquoi c'est une insulte pour eux de les traiter d'esclaves ? Parce que les Israélites, ils avaient été esclaves en Égypte. Pendant 400 ans, ils sont allés en Égypte et ils étaient esclaves des Égyptiens. Mais ils ont été libérés de l'esclavage à l'époque de Moïse. Dieu les a délivrés. Maintenant, ce sont des hommes libres. Alors, ils ne veulent pas que Goliath leur dise qu'ils sont esclaves. Hein? Maintenant, ils sont libres. Dieu les a délivrés de la domination des pharaons. Mais c'est vrai qu'en fait, jusqu'à Saül, ils n'avaient pas de roi, les Israélites. Ils étaient guidés directement par Dieu et par les prophètes de Dieu. Mais à l'époque de Saül, ben justement, les Israélites, ils avaient voulu faire comme les autres peuples aux alentours, ils avaient voulu avoir un roi. Alors c'est pour ça que Goliath, il leur dit, vous êtes esclaves de Saül. Les Israélites, ils étaient libres, normalement Dieu les avait délivrés, mais ils ont voulu avoir un roi. Alors souvent l'adversaire, le diable, nous rappelle notre passé. Il veut nous rabaisser, nous humilier, faire comme si on était toujours esclaves, mais Dieu nous a libérés. Il ne faut pas l'oublier, on en reparlera après. L'histoire du peuple d'Israël est connue des peuples alentours. En fait, Goliath, il savait très bien l'histoire du peuple d'Israël. Puisque les peuples, quand ils voyaient arriver le peuple de Dieu, ils avaient peur. Hein, les habitants de Jéricho, ils avaient entendu les exploits de Moïse, toutes les choses qu'ils avaient vécues en Égypte, les miracles que Dieu avait fait en Égypte. Donc les peuples alentour, ils savaient ce qu'il en était. Mais ils font semblant de l'ignorer. Et en se moquant du peuple de Dieu, Goliath se moque de Dieu. Et pendant 40 jours, il a lancé le défi. Tous les guerriers d'Israël étaient effrayés. On dirait qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il leur a promis. Malheureusement, l'homme oublie rapidement ce que Dieu a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il nous a promis. Alors, faisons attention à ne pas oublier. Faisons attention à cela, à transmettre de génération en génération et à ne pas oublier ce que Dieu a fait. Alors, continuons la lecture. Chapitre 17, versets 17 à 23. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet éphah de grain rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp de l'armée, il était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. Voilà que David va entrer en scène. Dans le chapitre précédent, en fait, le prophète Samuel, il a désigné le futur roi d'Israël qui remplacera Saül. Et c'est David qui a été désigné pour être le futur roi d'Israël. C'est Dieu qui l'a choisi. Cela ne se fera pas tout de suite, mais c'est décidé. L'Esprit de Dieu est avec David. On sait que David était le 8e fils de Isaïe. Il n'était pas l'aîné, il était le plus jeune. Et c'est Dieu qui choisit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est une parole importante à retenir. Dieu regarde chacun de nos cœurs et il voit ceux qui lui sont fidèles, ceux qui l'aiment. C'est Dieu qui choisit. David était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Il était berger. Il faisait paître les brebis de son père. Donc je dis aux adultes de penser à Jésus aussi en même temps. Il faisait paître les brebis de son père. On sait aussi qu'il jouait bien de la harpe. On a entendu les instrumentistes, c'est bien d'apprendre des instruments. David, il jouait de la harpe. Il jouait bien de la harpe. Et il calmait la mauvaise humeur de Saül en jouant de la harpe. Quoi, la musique, parfois, ça peut. On dit que la musique adoucit les mœurs. Ben, c'était le cas pour Saül et pour David. Donc il jouait. Mais il n'était pas seulement beau de figure, il est dit aussi. C'était un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien. Il a une belle figure et l'Éternel est avec lui. Donc David avait quand même plusieurs qualités. Hein. Il était, Dieu l'avait pourvu de différents dons. Et plus tard, donc, il composera des poèmes chantés, des psaumes, tous les psaumes que nous avons dans la Bible et que nous pouvons lire encore, qui ont été écrits par David. Alors, son âge n'est pas précisé dans le récit. Hein. Il est jeune, mais pas un enfant. On présente des fois l'histoire de David et Goliath en mettant un jeune enfant. Mais ce que je comprends, moi, du récit, c'est que David était jeune, certes, mais il n'est pas un enfant, puisque c'est un homme fort et vaillant, un guerrier. Il était jeune, simplement. Et peut-être, je ne sais pas, fin de l'adolescence, hein, début dans la jeunesse, une vingtaine d'années. Mais l'âge n'est pas précisé. David a un caractère obéissant. Il fait ce que son père lui demande. Et quand son père lui demande d'aller vers ses frères qui sont à la guerre, David obéit, il n'hésite pas, il le fait tout de suite. En obéissant à son père, David va se trouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants, au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui l'a voulu. Et en étant obéissant, nous faisons la volonté de Dieu. Et Dieu nous guidera au bon endroit, au bon moment. Et donc là où j'ai arrêté, il est dit, David a entendu ce que disait le géant Goliath. David a entendu. Alors continuons au verset 26. Donc, 17, 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» David aime Dieu. Et il cherche à honorer son Dieu. Ce qui est une insulte pour Dieu le fait réagir. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, cet incroyant? Il ose insulter le Dieu vivant. Tous les autres d'Israël ont peur. Lui, il voit que l'honneur du peuple de Dieu est bafoué. Je vais passer quelques versets, hein, mais on voit que même ses frères ne le comprennent pas. Même ses frères ne comprennent pas David. Ils croient qu'il est orgueilleux, ils disent qu'il est orgueilleux. Mais David ne veut pas défendre son honneur, mais il veut défendre l'honneur de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, continuons. 1 Samuel 17, 31. À 37. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Saül dit à David qu'il est un enfant, mais par rapport aux yeux de Saül, il le considère comme un enfant. David, il avait l'âge du fils à Saül, c'est-à-dire Jonathan, c'était du même âge. Donc, il le considère comme un jeune, quoi. Bon, c'est un enfant pour lui. Tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » On voit que David avait quand même un caractère bien trempé. Hein? Il n'avait pas peur, hein? C'était, il n'avait pas peur du lion, pas peur de l'ours. Il y allait, donc c'était déjà quelqu'un qui était un guerrier, quoi. Hein? Hein? D'ailleurs, bon, plus tard, ça sera un reproche qui lui sera fait, mais bon, en tout cas... Donc j'en étais ici, donc par rapport à Saül, donc considère comme un enfant, mais c'est vrai que face à Goliath, ce géant, David bien sûr, ne semble pas faire le pour, hein. Mais David est animé par l'Esprit de Dieu, il est plein de courage. Sa motivation, c'est que le Philistin a insulté l'armée du Dieu vivant. Tous les autres peuples, ils avaient des idoles. Mais le peuple d'Israël était le peuple du Dieu vivant. Et ça, David, il en est convaincu. Et ce Philistin, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Sa foi n'est pas dans sa propre force, mais il croit fermement que l'Éternel le délivrera. Et dans les versets suivants, nous voyons que David ne va pas utiliser les armes habituelles. On va lui donner les armes de Saül, etc., mais David ne va pas les utiliser. Tous les moyens humains sont laissés de côté. La gloire, elle reviendra seulement à l'Éternel. Alors lisons la fin du récit, 1 Samuel 17, 40 à 53. Il prit en main son bâton, donc là il s'agit de David, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi. » Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, il se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Voilà comment se termine le récit. Pendant 40 ans, les Israélites avaient peur de ce géant, mais ce géant a été terrassé par la main de Dieu. Il faut retenir certaines paroles de ce passage. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, de l'armée d'Israël, que tu as insulté. David ne marche pas en son propre nom. Il marche au nom de l'Éternel. Il faut que l'ennemi de nos âmes sache en quel nom nous agissons. Nous ne pouvons pas combattre notre ennemi, c'est-à-dire le diable, avec nos propres forces, avec nos armes à nous. Nous ne pouvons combattre qu'au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Donc, pas avec notre nom, pas avec notre force, mais au nom de Dieu, de Jésus-Christ. Autre verset, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toutes les victoires que nous remportons montrent la puissance de Dieu. Et c'est pour montrer cette puissance de Dieu que Dieu agit en nous et nous délivre, nous guérit, intervient pour nous, pour que son nom soit glorifié. Jamais pour que nous ne soyons glorifiés, mais pour que lui soit glorifié. C'est une chose qu'il faut retenir. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Jésus a dit à Pierre, laisse ton épée. Jésus n'a pas employé non plus les armes humaines. Nous n'utilisons pas les armes des hommes. David a déjà à cet âge-là et plus tard une confiance absolue en Dieu. Alors, nous posons la question, est-ce que nous avons cette confiance absolue en Dieu? Il a la foi, c'est ça la foi. Avoir une confiance absolue en Dieu. David se rend utile aussi à Dieu. Il est comme un instrument entre les mains de Dieu. On pourrait presque dire que David est la main de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est invisible, mais il agit et il agit à travers des hommes. Donc David, là, il est comme la main de Dieu. Et en même temps, c'est Dieu qui guide sa main, son bras et le caillou qui va atteindre Goliath. C'est Dieu qui agit, mais il agit à travers l'homme, à travers David. Il y aurait beaucoup encore de choses à dire et à méditer, hein, bien sûr. Mais j'ai dit aux adultes tout à l'heure de penser aux ressemblances avec l'action de Jésus face au diable. Si on reprenait tous les passages du récit et qu'on fasse le parallèle avec Jésus-Christ, on pourrait voir les similitudes de caractère et aussi l'action que Jésus-Christ a fait. David, il est considéré comme une figure de Christ, c'est-à-dire comme un exemple de Christ. C'est-à-dire que certaines actions de David annonçaient à l'avance ce que ferait et ce qu'a fait du coup maintenant pour nous Jésus pour nous délivrer de la puissance de notre ennemi, cet ennemi qui nous rendait impuissants parce qu'on n'a pas la force par nous-mêmes de combattre le diable. Jésus-Christ a affronté le diable, il a vaincu le diable à la croix. Donc Jésus nous a délivrés de la puissance de notre ennemi, le diable. Donc, ce récit nous parle à l'avance de Christ. Alors, je n'ai pas le temps maintenant, j'ai pris un certain temps de lire tout le récit, mais reprenez tous ces passages et repensez à Christ. Christ qui est le bon berger, Christ qui est envoyé par son Père, Christ qui combat l'ennemi, Christ qui ne utilise pas les armes humaines. Donc, pensez à toutes ces analogies, ces similitudes. Voilà, David, c'est une image, une préfiguration de Christ. Et cela, ce récit donc nous enseigne encore nous-mêmes pour nous appuyer sur les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Et quand nous combattons le diable, la tentation, eh bien c'est au nom de Jésus-Christ que nous devons combattre, pas en notre nom. Voilà ce que je voulais vous laisser aujourd'hui.